Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre 2022. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le parcours d'une précurseuse de la lutte et de la prise en charge du virus au Maroc. On y va pour les détails.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Professeur Majida Zahraoui, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lella ?
Ça va très bien, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Alors, professeur Majida Zahraoui, vous faites partie de ces précurseurs de par le monde et puis au Maroc aussi. Très jeune, jeune diplômée, vous avez été confrontée au sida. C'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Les premiers malades, moi j'ai travaillé donc dans le service de pathologie infectieuse avec madame le professeur Hennich. Donc au moment où on avait eu les premiers cas, vous savez que le premier cas déclaré au Maroc, c'était en 1986. Je ne sais pas, vous n'étiez peut-être pas encore née.
J'avais 5 ans.
Très jeune. Je me souviens très très bien, c'était un patient qui avait été hospitalisé à la polyclinique de la CNSS Zeraoui. Et voilà, et depuis, on a parcouru tout un chemin, toute une expérience, tout un apprentissage, un savoir et surtout un changement de comportement. Un changement de comportement qui nous a permis de nous remettre en question en tant que thérapeute. Hein. Parce que souvent, bon, il est arrivé, et peut-être que ce sera encore le cas dans le futur, mais je pense moins, que les médecins se croient tout puissants. On détient la science, on est de l'autre côté du bureau, on soigne. Voilà, à côté, il y a des patients. Et ces patients-là doivent se soumettre à la décision scientifique du médecin. Bien, déjà avec le VIH, on avait compris que ça ne pouvait pas se passer comme ça.
Alors, si vous permettez, professeur Majida Zahraoui, revenons à cette date, 1986, premier patient marocain. Quand vous pensez à cette date, vous étiez où ? Vous faisiez quoi ? Comment vous avez rencontré ce patient ?
Moi, c'était juste avant mon départ en France pour une formation justement dans un service de pathologie infectieuse. Voilà, c'était juste traitement d'un patient. On ne connaissait pas encore très bien la maladie. C'était juste 3 années après le diagnostic auprès de trois homosexuels à San Francisco de cette maladie. Donc vraiment, c'était le tout début et c'était vraiment une maladie, je veux dire, encore plus effrayante que bien plus que le Covid maintenant. Parce qu'il y avait en plus tout le tabou autour de la pathologie et les gens cherchaient des responsables. Il y a eu beaucoup de stigmatisation. Ça, je m'en souviens très, très bien.
Donc ça, c'était vraiment la première fois que vous étiez face à un patient séropositif. C'était la toute première fois.
Exactement.
Vous aviez peur en tant que jeune femme, que jeune médecin ?
Je pense qu'on peut... Oui, bien sûr, la peur, elle existe, surtout avec le premier contact avec les patients. Mais quand on étudie, quand on comprend bien les modes de transmission, c'est valable aussi pour le Covid. Je m'excuse, à chaque fois, je ferai le lien, parce que je pense que c'est intéressant pour les gens. Mais quand on connaît bien les modes de transmission et qu'on les maîtrise bien, eh bien, on a moins peur, c'est sûr. Et puis après... on côtoie les patients, on voit leur vécu, on voit leur souffrance, on voit... Et bien sûr, il y a cette empathie, cette compassion, heureusement qu'elle existe. Et on partage et on aide, on a... Disons, c'est beaucoup moins tabou, beaucoup moins effrayant, entre guillemets. Mais ceci n'empêche pas de prendre les précautions requises.
Bien sûr. Alors, votre premier patient séropositif était un homme. Et la première fois que vous avez reçu une femme séropositive ?
Bon, déjà, là, c'était ce patient dont je vous ai parlé, c'est juste pour vous situer quand le premier cas de... Mais je n'ai pas eu à le soigner directement.
D'accord.
Donc, oui, j'ai eu une femme. Je me souviens très, très bien de Saloua. Saloua, c'est une femme qui avait été contaminée par son mari. Si mes souvenirs sont bons, son mari lui-même ne savait pas qu'il était séropositif.
D'accord.
Et voilà. Donc c'était un drame parce que Saloua, c'est, on va dire, l'image même de la jeune femme marocaine. Bon, elle était du nord, du nord du Maroc, très très belle femme, très très gentille, très vraiment. Son seul objectif, c'était de fonder un foyer, de rendre sa famille heureuse. Mmh. Elle s'est retrouvée avec cette épée de Damoclès sur beaucoup de souffrances, et puis elle était enceinte.
D'accord.
Donc voilà, il y avait cette...
Elle va comment, Saloua, aujourd'hui ?
Saloua va bien. Saloua va bien. Elle avait perdu son premier bébé. Parce que vous savez, à ce moment-là, il n'y avait que la ZT. Mmh. C'est tout ce qu'on avait, et puis elle était quand j'ai eu à m'occuper d'elle, elle était déjà à 6 mois de grossesse, et donc voilà. Donc là, elle est très très courageuse. Elle a perdu bien sûr son mari, mais elle s'est battue. Elle a travaillé même dans l'association. Je me souviens, elle était membre de l'association de la LCS, de l'association de lutte contre le sida, pendant un long moment. Bon. Et voilà. Donc je ne sais pas si je peux dire d'autres choses.
Elle a pu refaire sa vie. Parce que vous savez, professeur Zahraoui, vous êtes une femme d'aujourd'hui, une femme face à, aux problématiques d'aujourd'hui. Et puis le sida est très tabou. Donc à travers vous, à travers la spécialiste que vous êtes, la femme, l'humaine, on peut avoir aussi des exemples de vécu. Parce que ça reste très tabou. On ne peut pas faire facilement parler une personne séropositive à l'antenne.
Vous avez tout à fait raison, le sida reste encore très tabou dans notre pays au jour d'aujourd'hui, sachant que maintenant c'est une pathologie qui se traite comme n'importe quelle pathologie chronique. J'ai des patients comme Saloua, 25 ans, 30 ans de recul, et qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Bon, mais c'est des cas exceptionnels. En général, les gens, ils préfèrent cacher leur pathologie parce que, malheureusement, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est encore le cas. Même au niveau d'être engagé dans un travail, aussi simple que ça, il y a encore des responsables qui vont aller demander des tests, qui vont... Et il faut savoir qu'en médecine du travail, le médecin est tenu par le secret professionnel et n'est pas du tout tenu de demander une sérologie VIH aux personnes qui vont être engagées pour travailler dans un contexte où il n'y a pas de risque de contagion.
C'est ça.
C'est évident. Donc finalement, les secteurs où on doit faire cette sérologie sont très 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 limités. Donc certainement pas dans un secteur tertiaire ou autre. Mais ceci étant, il y a des exemples de personnes qui sont tombées amoureuses d'une personne VIH+, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants.
Et c'est possible d'avoir une relation non protégée, un rapport non protégé avec une personne positive, avoir un enfant et ne pas être infecté.
Oui, c'est possible. Il suffit que la personne ait une charge virale négative. Et ça, avec le traitement, on y arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, charge virale négative ? Ça veut dire qu'il n'y a pas une charge virale contaminante dans le sang du patient. Par
D'accord.
conséquent, dans toutes ses sécrétions biologiques.
Le virus est là, mais il n'est pas actif.
Il n'est pas actif, c'est-à-dire et la personne n'est pas contaminante.
Contaminante, c'est ça. Donc, vous avez assisté à ce genre de situation, à ce genre de cas. Vous dites qu'ils sont rares, mais ils existent.
Ils existent, bien sûr. J'ai eu, bien que cette année, 2 personnes positives sous traitement qui sont tombées enceintes et qui ont eu des enfants.
D'accord. Et les enfants
sont en très bon état, très bonne santé. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, parce que j'ai vécu le drame d'une dame qui m'a quittée dans vraiment catastrophée, parce qu'elle était allée voir un médecin qui a fait un pédiatre qui a fait une sérologie à son enfant et qui lui a dit votre enfant est contaminé.
D'accord.
D'abord déjà, il ne faut pas du tout tester l'enfant avant 6 mois parce qu'il porte les anticorps maternels. Donc automatiquement, il sera séropositif dans les 6 premiers mois. Il faut attendre que l'enfant ait sa propre immunité développée avant de demander non pas une sérologie, mais une charge virale chez l'enfant. Et là, la charge virale de l'enfant est négative. Mmh. Après 6 mois.
Donc en fait, la maman se faisait suivre chez vous, elle a eu un petit garçon, et le pédiatre a demandé une sérologie.
Oui, moi je n'étais pas prévenue, parce que sinon je lui aurais dit, vous inquiétez pas, elle m'a appelée après coup. Donc elle a vu le pédiatre. Bon, il y a des pédiatres qui sont parfaitement au fait et qui connaissent très très bien la pathologie, cette personne en particulier ne savait pas et a demandé une sérologie chez un bébé de moins de 6 mois. Elle sera forcément positive, sans pour autant que cela puisse dire que l'enfant est contaminé.
C'est ça.
C'est ce que je veux dire.
Complètement. Justement, entre les années 80 et 2021, qu'est-ce qui a changé selon vous et qu'est-ce qui n'a pas du tout changé malgré pratiquement 40 ans de pratique, de carrière?
Bon, déjà à cette période-là, moi quand je suis allée en France, les services où je travaillais et beaucoup d'autres étaient classés comme les couloirs de la mort parce que tous les patients décédaient. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de changements au plan prise en charge thérapeutique. Bon, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de traitement radical à cette pathologie virale. Parce que le virus VIH, comme tous les virus ARN, mute énormément. Donc, au sein même d'une personne, il y a beaucoup de mutations de virus. Mais on a toujours l'espoir, le grand espoir, qu'on trouve un traitement radical pour cette maladie. Ça met du temps, on verra. Mais en attendant, il y a des traitements qui sont efficaces, qui permettent à la personne de vivre normalement en étant au plan immunitaire tout à fait, à avoir une immunité tout à fait correcte. Parce que c'est ça le problème. Quel est le problème de l'infection à VIH ? C'est que le virus attaque les cellules immunitaires. Et à un moment donné, ces cellules immunitaires, les lymphocytes en particulier, elles sont tellement bas que la personne devient très très fragile. Et elle peut donc être infectée par n'importe quelle bactérie, n'importe quel parasite, n'importe quel champignon, même des germes qui sont saprophytes, c'est-à-dire des germes qui, normalement, si elle avait un état immunitaire normal, elle les aurait dans son corps sans que pour autant cette pathologie donne ces microbes donnent des pathologies. Or, chez ces personnes-là, automatiquement, elles vont donner des pathologies. Donc, voilà. On est beaucoup plus rassuré, plus serein. En général, les patients que je reçois sont totalement effondrés, mais dès qu'ils lisent, qu'on leur explique qu'il faut prendre le temps. Oui, là, je vais vous dire le grand changement qui a eu lieu, en tout cas en moi, et aux thérapeutes qui ont approché cette maladie. Dès qu'ils lisent, qu'ils sont informés et tout, ils comprennent. Et donc, ils sont beaucoup plus sereins et ils vivent, et ils apprennent à vivre, on va dire, relativement normalement. Alors, qu'est-ce qui a changé en nous, thérapeutes? C'est que, comme je vous l'ai dit au départ, on s'est totalement remis en question. Nous avons assisté à énormément de réunions de counseling. Confronter avec le patient cette pathologie, comment lui expliquer, en étant juste, vrai, en ayant de la compassion sans pour autant tomber dans le mélodrame, et en même temps en aidant le patient avec des informations positives, sans mensonge. Et ça, c'est extrêmement important dans la relation de confiance entre le médecin et le patient.
C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, le diagnostic, lorsque vous le donnez en tant que médecin, est-ce que c'est toujours vécu comme un drame?
La plupart du temps. Ouais. Et je pense que c'est parce que il y a toujours besoin de faire des séances de sensibilisation, de rappel. Et pas uniquement à l'occasion du 1er décembre, mais de façon, il faudrait que régulièrement on informe les gens sur ce qu'est cette pathologie, sur l'évolution de la recherche, sur la prise en charge, etc. Mais là, voilà, c'est comme si on avait, c'est vrai que la prévalence, il semblerait que la prévalence au Maroc ne soit pas très élevée, entre faudrait-il dépister. Donc, bon, c'est un petit peu mis dans un tiroir. Mmh.
Parce que ça touche ce volet extrêmement intime et personnel de la sexualité de l'individu, en fait.
Oui, exactement.
C'est ça, en fait, qui en fait...
La liberté sexuelle.
La liberté sexuelle, exactement. La liberté, tout à fait.
Bon, alors justement, ce que se doit un thérapeute, mon opinion personnelle par rapport à la sexualité, ou ça, je la garde pour moi. Mais moi, je suis une personne qui traite. Et je suis une personne qui va accompagner une autre personne en souffrance. J'ai pas de jugement. Pas de jugement exprimé, certes, mais même, il faut pas que la personne sente. Donc, il faut qu'on soit sincère. Il faut pas qu'il y ait de jugement de valeur. Chacun vit comme il l'entend. Nous ne sommes pas la justice divine, nous sommes un technicien qui soigne et qui essaie de soigner, d'accompagner dans les meilleures conditions possibles.
Il y a encore ce regard, justement, ce regard du spécialiste parfois qui interroge la situation, l'origine, culpabilisant.
Oui, je pense que oui. Je pense que oui, et là aussi, c'est juste une question de formation. C'est juste une question de s'intéresser. Si on veut vraiment s'occuper de ce volet de cette maladie, eh ben il faut même en tant que soignant, il faut aller au bout des choses, il faut accepter d'être formé, accepter des formations en conseil, même souvent qui sont prodiguées par des gens qui sont non médecins. C'était surtout au départ les associations de malades qui ont fait ces séances, genre APART, AIDE, c'est des associations de patients ou des associations appartenant à une confrérie qui était un petit peu montrée du doigt et qui se sont dit non, ça peut pas continuer comme ça, on peut pas se laisser traiter de cette façon. Et ils ont pris le sujet en main et vraiment, on a beaucoup appris avec ces personnes.
Est-ce que les choses ont évolué en 12 mois?
Écoutez, pas vraiment, parce que bon, vous le savez très bien, il y a un sujet maintenant qui occupe tous les esprits. Donc c'est cette l'infection Covid, tout est branché sur cela, mais quelque part ça fait évoluer malgré tout. Par cette maladie, on évolue aussi pour la prise en charge, je pense, de l'infection à VIH, parce que maintenant c'est encore mieux. Comme c'est une pandémie, il y a un changement de comportement de toutes les populations, de toute la population planétaire. Au moins en ce qui concerne les gestes de prévention. Même si ça excède les gens, petit à petit, ils comprennent ce que c'est que l'attitude de prévention, la safety, ce qui va les protéger. Mais ça mettra le temps qu'il faudra, mais ça va se faire. Parce qu'il y a un avant et un après-Covid.
Bien sûr.
Tout comme il y a eu pour ce qui est de la sexualité des gens, pour ce qui est de toutes les maladies liées transmises par le sang et les dérivés, il y a un avant et un après-VIH.
Alors justement, professeur Majida Zahraoui, est-ce que vous avez eu à perdre des patients, non pas de VIH, mais de Covid?
Non, j'en ai pas eu.
D'accord.
J'en ai pas eu. Moi, je crois que c'est dû au fait que ce groupe de patients sait très très bien comment faire attention. Et que déjà, comme ils savent qu'ils risquent à tout moment d'être fragiles, eh bien, ils font beaucoup plus attention que d'autres personnes qui sont novices, on va dire.
Est-ce que vous pensez que cette spécialité de la médecine en particulier, le fait d'accompagner, suivre, traiter des patients VIH positifs, Est-ce que ça a modifié quelque chose dans votre perception de la vie, dans votre vie de façon générale?
Oui, bien évidemment. Bien évidemment, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, c'est clair. Vous savez, moi j'ai rencontré des personnes extrêmement enrichissantes, aussi bien à l'étranger qu'ici. De grands artistes, des auteurs, forcément par l'expérience vécue avec les gens, par ce qu'ils nous racontent, automatiquement, c'est très très enrichissant. Et puis, comme je vous l'ai dit, on change de comportement. On change de comportement, même dans notre prise en charge de tous les jours, on relativise beaucoup de choses.
On devient plus humain ?
Dire que certainement, certainement. Dire qu'on s'habitue à la mort, je crois que jamais on s'y habituera, mais il y a une sorte d'acceptation et puis on comprend aussi, j'ai beaucoup compris à travers cette maladie ce que ça veut dire accompagner des gens en fin de vie, gens dans une précarité, qu'elle soit qu'elle concerne leur santé ou qu'elle concerne aussi leur vie. Une personne qui se retrouve sans travail, qui doit avoir des médicaments qui coûtent très cher. Donc il faut que le médecin aussi cherche à des solutions. Parce que le patient seul ne peut pas.
Et vous avez eu à faire ça justement ? Chercher des solutions avec les patients ?
Oui, pour soigner déjà ce genre de patients, on ne peut pas les recevoir. Moi, je travaille dans le privé, j'ai longtemps travaillé à l'hôpital, je travaille dans le privé, mais il était hors de question que je reçoive ces personnes en consultation, leur dire ben maintenant, voilà, l'ordonnance, débrouillez-vous pour aller chercher le traitement. Il a fallu que je m'organise, que j'aille me mettre en réseau avec le service où je travaillais, qui est le service de pathologie infectieuse, et grâce à tout le travail qui a été fait par l'équipe, en particulier par Mme professeure Hemisch, vous savez que les médicaments sont délivrés gratuitement par le ministère de la Santé.
Exact.
Donc il ne peut pas y avoir une médecine à deux vitesses, des patients qui reçoivent un traitement gratuitement et d'autres qui vont aller l'acheter. Donc voilà.
Donc c'est une pratique qui nécessite extrêmement d'humanité et d'humanisme.
Exactement.
C'est ça.
Et de remise en question. Il faut être très humble.
Professeur Majida Zahraoui, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Avec grand plaisir, madame.
Merci, professeur.
C'est un plaisir aussi de partager avec vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.